magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Ding dong.
Ding dong.
La bande passante.
La bande passante. Alain Pilot.
Architecte sonore Sandrine Straham, c'est un groupe qui est né deux fois avec un chanteur qui entame sa carrière poétique en 1993, à la fois inventeur, crooner, illusionniste, mangeur de femmes en peau de crêpe, insomniaque, angoissé, et le plus con des dragons, semi-poète, c'est lui qui le dit. Elle est chanteuse, violoniste, castagnériste, drôle d'oiseau marin du Body Club, Elisabeth Mestre, alias Babette et Mathias Malzieu. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Mathias, j'ai oublié dans vos différents rôles celui d'imitateur d'animaux sauvages. Un exemple ?
Je peux vous faire l'éléphant, mais ça va faire saturer le...
Bah vous vous reculez du micro, on y va. Pas mal. Babette ?
Moi, je peux faire le chat.
Ah, tu fais mieux le chat que moi, l'éléphant. Moi, c'est un éléphant nain que j'ai fait.
C'est pas mal. Si vous avez déjà évoqué votre livre sur RFI, nous allons mordre à pleines dents une partie des 13 morceaux de ce nouvel album « Vampire en pyjama », disque autobiographique sorti le 29 janvier, né à la suite d'une grave maladie de la moelle osseuse dont le chanteur, auteur et co-compositeur de Dionysos que vous êtes a été atteint. Mathias, soyez les bienvenus dans votre maison et sa musique autobiographique à tous les étages.
Un petit lion qui dormait dans la cuisine. C'était très impressionnant de voir à quel point il était beau. Le long de son dos nacré, des gringoles et sa crinière, c'était comme un réverbère qui aspirait les lumières de la lune. C'était comme un rêve qui respirait. Le tout était de ne pas le réveiller. C'était comme un rêve qui m'aspirait. Oh ma féroce peluche, contre ton dos je me juche. Voudrais-tu te retourner pour me dévorer de haut en bas? À l'hôpital enfermé, c'est important de rêver, ne serait-ce qu'imaginer la joie d'avoir le droit de t'effleurer. J'étais comme un rêve qui respirait. Le tout était de rester éveillé. C'était comme un rêve qui m'aspirait. Il était un petit lion qui dormait dans la cuisine.
C'était très impressionnant de voir à quel point il était beau.
Le petit lion Dionysos. Dans les églises catholiques, le lion représente la force du croyant combattant le péché. Dans la mythologie grecque, le lion apparaît dans diverses fonctions. Le lion de Némée, par exemple, est représenté comme une bête mangeuse d'hommes à la peau impénétrable. Pour me dévorer de haut en bas, chantez-vous. Je me bats comme un lion, écrivez-vous dans Journal d'un vampire en pyjama. Qui était ce petit lion, au fond ?
Bon, c'était ma compagne. C'est toujours ma compagne.
C'est celle qu'on entend à la fin, d'ailleurs, de la chanson.
Ouais.
C'est elle qui chante à la fin.
Ce n'est pas vous, Babette. Hein.
Non, c'est pas moi.
Exceptionnellement, Babette avait proposé, d'ailleurs. Ah, bah, elle n'a qu'à venir la chanter.
C'est sa chanson.
C'était joli comme invitation. Et c'est vrai que j'aimais bien l'idée d'en faire une comptine, parce qu'il y avait ce côté complètement tendre. Et en même temps, c'est comme dans les contes, parfois, on a l'impression que c'est doux, on a l'impression que c'est enfantin, donc c'est... régressif et quelque chose d'uniquement rose. Et en fait, ça peut être des fois des choses très dures ou très émouvantes qu'il y a dans les contes et les comptines. Et c'est la frontière limite entre le rêve et la réalité qui se franchit un tout petit peu avec cette chanson et j'aimais bien cette idée-là avec les chœurs un petit peu magiques comme ça, arrangés par Olivier Daviau. Et cette révélation au deuxième couplet où on est vraiment dans quelque chose de très réel, de cette réalité d'hôpital que j'ai traversée où on ne pouvait pas me toucher. Et j'aimais bien l'idée de l'amener avec quelque chose de très très doux et qu'on puisse rester dans cette émotion-là.
Au moment où votre mal vous ronge déjà, vous êtes en pleine promotion de ceci.
Mon cœur, on me l'a confectionné le jour de ma naissance. Parce qu'on dit que je suis né le jour le plus froid du monde et que mon cœur a gelé. C'est un peu bricolé, mais ça marche.
J'aurais voulu que ton cœur se solidifie encore avant de te lâcher dans la nature.
Waouh !
Il y a trois règles que tu ne devras jamais oublier.
Ne pas toucher à mes aiguilles, je sais.
Qu'est-ce que c'est ?
Mais aussi, maîtriser ta colère. Et la troisième, celle dont je ne t'ai jamais parlé, est la plus importante. Tu ne devras jamais, au grand jamais, tomber amoureux.
C'est quoi ce petit bruit ?
C'est mon cœur. Vous aimez ?
Oui.
Tu ne supporteras jamais la charge émotionnelle et physique que provoque l'amour.
Un extrait de votre long métrage Jack et la mécanique du cœur, nommé au César et shortlisté aux Oscars, film d'animation sorti en 2014 et produit par Luc Besson. Plus d'un million d'entrées à travers le monde, l'histoire de Jack à qui on a greffé une horloge à la place du cœur. Le jour de sa sortie, on vous met un cathéter sur la poitrine. Vous avez aussi imaginé un personnage de cascadeur, Tom Emma Tom Cloudman, le héros de votre troisième roman, Métamorphose en bord de ciel. Un homme-enfant coincé dans un hôpital qui fera tout coûte que coûte pour s'envoler. La réalité dépasse la science-fiction. Que vous dites-vous, mis à part ça à ce moment-là?
Bah, ça fait bizarre, c'est troublant en fait. C'est troublant. Après, je pense que la politesse par rapport aux proches, par rapport aux soignants, par rapport à tout ça, c'est de ne pas se prendre trop au sérieux quand même et de ne pas se prendre pour un autoprophète de même sa propre mini-mythologie. Donc, c'est troublant. Ça fait des nouveaux repères, ça fait des choses sur lesquelles on peut réfléchir un peu, mais il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et c'est toujours ce dosage qui a été compliqué et en même temps assez passionnant, c'était de prendre la bonne distance avec la réalité et avec les rêves et avec l'espoir. C'est-à-dire que tout le long, il fallait prendre un petit peu d'espoir, mais pas trop, pas être trop dans la projection. C'était des petits pas par petits pas pour revenir à la vie normale et pas être trop dans le passé. À savoir justement ces liens qui sont quand même effectivement troublants avec des choses que j'ai écrites avant. Il fallait être surtout au maximum dans l'ultra présent. Un, pour savourer les améliorations. Et deux, pour pas se faire de faux espoirs et se reconstruire petit à petit.
Babette, comment le reste du groupe prend la nouvelle ?
Au départ, ça fait une espèce de coup d'éclair qui coupe en deux, qui découpe en deux le ciel. Et on est tous un peu sans mots, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire face à une maladie comme ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire, surtout? Et bien, en fait, nous, le truc qu'on a choisi, c'était de faire les chansons avec Mathias, qui nous les a proposées avec beaucoup de générosité et qui nous a tout de suite fait lire aussi les premiers mots, les premiers essais de son journal. Et c'est ça qui est fou, c'est que... il a eu une façon de vivre et de survivre à sa maladie qui était vraiment toujours en générosité. Toujours, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce que je peux compter sur vous? Et c'était tellement joli et tellement, tellement émouvant que forcément, nous, on a suivi. On a eu envie de vivre cette aventure avec lui.
Mathias Malzieux, qui disait souvent à ses amis « Je me reposerai quand je serai mort », maintenant il le chante.
Petit poussé qui perd ses plumes, tout envolé, tout le temps voler plus haut, voler plus vite que la musique du vent glacé. Crache les miettes de mon corps, encore et encore. encore crache les miettes de mon corps. Voici le chant du mauvais cygne, celui de l'oiseau. Je suis toujours là. Je me reposerai quand je serai mort. Je me souviens plus, je me suis perdu. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de me retourner. Crache les miettes de mon corps, encore et encore. Crache les miettes de mon corps.
Le chant du mauvais signe, Dionysos, le chant du signe désigne la plus belle. Dernière chose réalisée par quelqu'un avant de mourir, cette boulimie de réalisation, disque, film, livre, concert, comment l'analysez-vous au bout de toutes ces années?
Dans l'absolu ou juste au moment de ce problème de santé?
Les deux, j'ai envie de dire.
Les deux. Ben, en fait, moi, ça a augmenté à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment l'enfance qui a généré beaucoup de spontanéité, d'instinct, et que j'ai peut-être pas eu envie d'abandonner l'adolescence, d'où l'appât du rock'n'roll, de cette spontanéité-là, et puis des films et des livres, et tout ce fantasme s'est construit en même temps, de façon complètement équilatérale, une envie de voir des films, d'en faire, de filmer avec une caméra Super 8, de faire les premiers clips du groupe. Donc il y a toujours eu un côté, des ponts entre les histoires, les films, la musique, mettre de la musique sur des petites images que j'avais fait, etc. Commencer à faire des premières nouvelles, ça, il y a toujours eu ce bouillonnement. Puis quand j'ai perdu ma mère en 2003, ça a franchi encore un autre cap. C'est-à-dire que mon hyperactivité a encore augmenté. Il y a eu besoin de compenser encore plus. Avec du bon et du moins bon. Le bon, c'est que j'ai trouvé d'autres connexions, justement, entre les personnages, les chansons, les livres, etc. Et le moins bon, c'est que ça a mis une fragilité en plus, et qui a été pas jamais vraiment compensée, en fait. Elle a été compensée, finalement, avec les nerfs et avec l'imagination uniquement, mais pas forcément avec quelque chose de très réel. Et puis au moment où j'ai ce problème, cette attaque surnaturelle extraterrestre sur la moelle osseuse qui va m'isoler d'à peu près tout, ça a été encore pire et encore mieux. Donc j'ai encore passé un autre cap, et effectivement, le chant du mauvais signe, c'est une que vous venez de diffuser, c'est une chanson que j'ai écrite à un moment où j'attendais un greffon, c'est-à-dire que je savais pas non seulement si j'allais m'en sortir, mais même si on allait pouvoir me greffer. Donc j'étais dans un des moments les pires, et c'est finalement là que j'ai fait les chansons les plus douces, les plus comptines, les plus lumineuses, parce que rajouter du sombre sur le sombre, c'était complètement impossible et indigeste. Donc aujourd'hui, je continue d'être pire et mieux, c'est-à-dire que après la greffe, il y a l'euphorie du retour, et le fait de cette sensation d'être né une deuxième fois, ce truc extraordinaire qui rend le précieux de la vie quasiment palpable. Et le joli problème que j'ai, c'est que par contre, cette euphorie se maintient encore 15 mois plus tard. Et c'est à la fois génial et en même temps complètement gérable. Donc j'essaye de doser ça au jour le jour.
Babette, vous êtes bientôt en tournée avec Dionysos.
Oui.
Est-ce qu'il y a des signes, cette fois-ci ça s'écrit S-I-G-N-E-S, que vous faites sur scène et que nous, on ne voit pas le public?
C'est des regards.
Il y en a plein, ouais.
Il y a plein de regards.
Allez, vous nous en confiez un au moins?
De quoi? Non, mais c'est des regards, en
oui,
fait.
Qui peuvent servir à
quoi? Il y a la technique du saut. La technique du saut.
Quand Mathias s'approche du public et qu'on le laisse partir, en général, quand il revient, on se regarde, il saute, et voilà, on sait à peu près qu'il faut tous repartir ensemble sur un éclat de musique.
Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, Mathias, qui a eu un jour les pieds de Casimir, a toujours rêvé d'être un super-héros.
Singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands en garde.
Il n'est pas Wolverine de X-Men, mais à la fois Homme Horloge, Femme Chocolat, Homme Cordon, Homme Volcan, Eggman et ses mini-westerns avec des surprises, ou celui qui peut avoir les cernes de E.T., voire être plus pâle que Dracula, ou être les sept nains de Blanche-Neige à la fois. Ici, dans ce super mix signé de Super Straham, nous avons entendu le thème de Batman, celui de Star Wars et son fameux retour du Jedi, et enfin celui de Spider-Man, en version française, l'araignée. Il est question de t-shirts de vieux super-héros, dont un de Superman. T'étais Jedi ou Superman, les deux derniers apparaissent dans votre composition déguisé en moi. D'où vient cette fascination pour ces êtres aux capacités extraordinaires?
C'est un rapport à l'impossible. Quand l'impossible devient possible et quand tout se décloisonne, ça me fascine tout le temps. C'est toujours cette histoire de passeur, finalement, entre premier degré, deuxième degré, âge enfant, âge adulte, réel, imaginaire. Et les super-héros, pour moi, c'est ceux qui transpercent ça. Parce que finalement, dans ce qu'ils racontent socialement, dans ce qu'ils racontent de leur faille intime, comme un personnage comme Batman, finalement, ou Spider-Man qui est timide dans la vraie vie, il y a toujours une résonance sur ce que c'est qu'être un super-héros, entre guillemets, dans le quotidien. Et quand, par exemple, on est au contact de soignants, on a l'impression qu'avec leur blouse blanche, c'est un petit peu des tenues de super-héros qu'ils ont, parce qu'au jour le jour, et sans aucun pouvoir magique si ce n'est leur empathie, ils se comportent comme des super-héros.
Mathias Malzieux, le plus vieil enfant du monde et le plus jeune vieillard aussi sur RFI.
Je vais traverser l'Islande sur un skateboard à moteur. Je n'ai plus peur des volcans, je suis l'un des leurs depuis bien longtemps. J'ai changé de groupe sanguin, mais pas de groupe de copains.
Un très bref aperçu de Vampire en pyjama à suivre juste après avoir fait le tour du monde de l'actualité. Retour de celui qui a vécu une opération tête d'œuf et un temps dans une sorte de Kinder Surprise, assis dans son siège en forme d'œuf géant avec celle qui joue avec un piano monstre. A tout de suite sur RFI, dans la bande passante.
Il est plus gros que la tête, le cœur, le cœur.
La bande passante. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Musique. Alain Pilot.
Retour de la bande passante en compagnie de cette tribu électrique aux 4 disques d'or créée entre amis il y a déjà plus de 20 ans et pour qui le rock'n'roll est une oasis d'adrénaline pour enfants perdus. Babette et Mathias Malzieux de Dionysos, rebonsoir.
Bonsoir.
Rebonsoir.
Mathias, un jour vous avez dû respecter les trois règles des Gremlins, ne pas se mouiller, ne pas s'exposer à la lumière et surtout ne pas manger après minuit. Quelles sont les trois règles du rock'n'roll? Il y en avait trois aussi dans Jack et la mécanique du cœur.
Les trois règles du rock'n'roll, c'est la première règle, c'est il n'y a pas de règles. La deuxième règle, c'est être le plus soi-même possible. Et la troisième règle, c'est surtout se pas prendre au sérieux. Je suis d'accord avec Babette.
Mais ça pourrait être aussi ne pas se mouiller, ne pas s'exposer à la lumière et surtout ne pas manger après minuit.
Bah oui, parce que les Gremlins, il n'y a pas plus rock'n'roll que les Gremlins.
En 38 minutes et 13 titres, vous nous racontez les aventures d'un vampire en pyjama qui fréquente la Damoclès dans un hospital blues où l'on connaît son anémie à l'heure des lueurs. Soyez de nouveau les bienvenus dans votre maison et sa musique aplasique et nordique à tous les étages.
Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always? With the ocean.
Pour débuter la phase B de cette bande, ce tube de la suédoise Like Ely, I Follow Rivers, que l'on aurait pu rebaptiser en français Tu es ma rivière, mon infirmière, qui ne coulait pas de source à la première écoute. C'est donc vous
bien,
bien approprié, merci. C'est une infirmière qui est à l'origine de cette reprise, vous nous racontez?
Oui, c'est ça en fait. C'était vraiment dans les discussions justement, toute simple, cinéma, livre, disque avec des infirmières dans ces moments où un petit peu d'oxygène comme ça. L'une d'elles qui me dit qu'elle adore cette chanson. Donc moi j'avais ma guitare, je commençais à trouver un peu les accords et à la chanter. Et c'est devenu un petit code, un petit hymne du service, parce que du coup, quand elle passait dans le couloir, elle tapait dans les mains. Et quand elle m'entendait jouer de la guitare, et je me mettais à jouer ce refrain-là ou cette chanson-là. Et ensuite, quand je suis revenu avec le groupe pour répéter, pour finir l'album, c'était chouette de faire cette chanson-là un peu comme une bouteille à la mer, quoi, finalement. Pour juste ces quelques personnes, et en même temps, évidemment, si on l'a mis sur le disque, c'est aussi parce qu'on se l'est réapproprié et qu'on avait l'impression que c'était presque une chanson à nous. Et puis j'aime bien l'effet qu'elle fait aussi d'interlude un petit peu. C'est le début de la deuxième face.
Comme pour nous.
Et je trouve que ça donne encore du poids à la chanson qui vient après, qui s'appelle Damoclès.
Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson de Lake Ely, Babette ?
C'est l'histoire qu'elle a eue par rapport à Mathias. Tout de suite, ça m'a semblé être évident qu'il fallait qu'on la mette dans le disque, en fait. Et puis j'adorais. Moi, j'avais l'album de Lake Ely, donc moi, c'était une artiste que j'aime. Donc j'étais contente de chanter cette chanson-là aussi.
Est-ce que vous lui avez fait parvenir cette reprise ?
On a essayé, mais apparemment, c'est compliqué. Mais je crois qu'on a essayé.
On a essayé de la poster sur son Facebook.
Et ça n'a pas marché, c'est pas possible.
Je crois que ça n'a pas marché.
C'est trop sécurisé, on ne peut pas poster ce qu'on veut.
Humblement, j'aimerais bien. En plus, on a eu des histoires de reprises comme ça qui étaient jolies. Sur Monsters in Love, on avait repris Daniel Johnston, un chanteur très particulier, très folk, et dont on est très très fan et qu'on a connu grâce à Kurt Cobain ou des gens comme ça. Et en fait, il a reçu la reprise. Et plus tard, en fait, il nous a fait à la fois pour moi une illustration pour un de mes livres, Métamorphose en bord de ciel, et il a fait aussi la couverture
de la tournée et de
It's Music, ouais, qui était notre petite compile des 15 ans, alors que c'est un mec dont on est super fan, et pour sa musique et pour ses dessins. Donc on ne sait jamais ce qui pourrait se passer avec elle.
Like Ely, if you hear us, please contact Dionysos. C'est bien mon anglais. Je ne parle pas suédois encore couramment. Vous avez écrit seul parfois, Mathias, depuis l'hôpital, avec quelques instruments qui font peut-être partie de ceci. Si musicale jouant El Condor Passa, une valse sur un piano joué, un glockenspiel sur le thème de Harry Potter et puis un mélotron. Qu'aviez-vous comme instrument auprès de vous à l'époque ?
À l'hôpital, j'avais un piano joué, effectivement. J'avais ukulélé et guitare acoustique. Et puis dans le disque, il y a eu cela, mais il y a aussi un petit peu de si musicale, effectivement.
Il y a du stylophone.
Il y a du stylophone, c'est une espèce de petit transistor minuscule où on joue avec un stylo. Pour faire les sons, et notamment c'est Bowie qui avait utilisé ça dans Space Oddity.
Il y a un theremin.
Il y a un theremin. C'est un récit musical, on l'a dit.
Rappelez ce qu'est un thérémine, juste.
Thérémine, c'est en fait c'est une espèce de boîte à ondes où on approche la main.
Devant, c'est ça.
On passe la main devant pour aller du grave vers l'aigu et pour faire l'attaque aussi avec l'autre main. Et en fait, c'est le son qu'on entend dans les films de fantômes ou de films d'horreur des années 50-60. Notamment les films d'Ed Wood pour faire les sons de soucoupe volante ou les voix de fantômes, parce que ça vraiment, ça, on dirait une voix, mais une voix un petit peu électronique. Et c'est à la fois très sensible, comme si c'était une voix chantée, et en même temps, ça a l'étrangeté de l'électronique, fantômes. Du fantôme.
Babette, vous êtes au chant, au violon, au banjo, au chœur, aux programmations, et à la demi-lune. Vous nous en dites un peu plus sur la belle appellation de cet instrument, la demi-lune.
La demi-lune, c'est un mystère un peu. Les gens, en fait, c'est comme une demi-lune, c'est la forme d'une demi-lune sur laquelle il y a comme des clochettes, des mini-cymbales, et tu secoues avec la main droite et tu marques les temps forts avec la main gauche.
Et Babette est très très douée pour ça.
Et je peux tenir longtemps, toute une chanson.
Ouais,
comme
ouais,
ça.
Elle le tient hyper bien. Ouais.
On l'appelle la fée clochette d'ailleurs.
Voilà. La fée demi-lune.
Vous savez jouer de la demi-lune, Mathias?
Beaucoup moins bien que Babette. J'arrive à tenir un petit peu, mais elle tient le rythme super fort, même dans les trucs hyper rapides et tout.
Mais c'est l'archer, je pense, c'est parce que peut-être, c'est un peu je pense que le truc, le côté rapide et endurant que je dois avoir avec l'archer, en fait, du coup, je peux l'avoir avec la demi-lune.
Pour celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant, nous allons maintenant faire le bilan de ce vampire en pyjama avec l'infirmière Elsa.
Hospital blues.
Le blues ne vient pas des guitares, mais des monitorings. Ça fait bip, bip, bip.
À l'hôpital enfermé, c'est important de rêver, ne serait-ce qu'imaginer la joie d'avoir le droit de t'effleurer.
Les bips deviennent des chants d'oiseaux, la chambre stérile devient une chambre fertile et les mélodies pleurent.
Être et avoir été un fantôme de chair.
Le diagnostic tombe, ce n'est pas un poème.
Y a-t-il plus fragile qu'un guerrier de porcelaine?
Il y a plus fragile, un aplasique médulaire idiopathique.
Oh Damoclès, délicatesse, des parfums capiteux de l'étoile que tu décapites au-dessus de ma tête. À quelques centimètres.
Un pyjama blanc dans un couloir d'hôpital enfourche un skateboard pour tenter de s'échapper de cette rivière de sang.
I've got to know my anemia to fight against myself.
C'est la guerre à l'intérieur de lui-même.
Dans un autre temps, tel un revenant.
Un vampire grimpe sa moelle épinière et lui suce le sang.
Tu t'abats sur moi comme une pluie d'insectes. Tu as touché la tête, mais le cœur est toujours là.
Et enfin, le printemps arrive. Le cœur bat. Les oiseaux chantent.
Qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de la nuit.
Mathias Malzieu-René.
Oh capitaine, mon capitaine, le voyage n'est pas terminé.
Et maintenant, survivant Mathias, où votre skate va-t-il vous mener?
Elle s'appelle Elsa Plasy. Alors Mathias?
C'est très beau, je vous remercie beaucoup. Je remercie Elsa.
Elle vous a posé une question aussi.
Oui, maintenant, le skateboard, il va me mener sur les concerts, déjà. Défendre déjà ce disque et ce livre, c'est une étape extraordinaire du voyage, qui permet aussi de tomber la mue et d'imaginer de nouvelles choses. Donc, la première chose pour nous, c'est dès cette semaine, continuer à monter le concert. Avec le groupe, vraiment transformer le disque en une matière vivante pour le live. Ensuite, l'étape de skateboard d'après, c'est un court-métrage qui va être une mini-suite de Jack et la mécanique du cœur. Et où je promets qu'il y ait une scène de skateboard en noir et blanc, par exemple, qui devrait, je l'espère, être jolie.
Chic alors.
Et voilà, il y a des surprises, il y a des nouvelles surprises, évidemment, ce sera avec la musique du groupe. Donc les connexions continuent de se faire, et le skate continue de rouler, et j'en fais encore tous les jours, et j'attends le printemps pour pouvoir en faire. C'est un printemps que j'attends depuis longtemps, parce que ça fait 2 ans, même l'an dernier, ça allait déjà beaucoup mieux. Mais c'était un printemps encore hésitant. Là, c'est le printemps de la tournée et du skateboard vraiment en pull sans faire attention. Et je l'attends avec beaucoup d'impatience.
Ça m'a donné envie de reprendre le mien aussi. Vous, Babette, quel est votre moyen de locomotion préféré ?
Mes petits pieds. Je marche beaucoup.
C'est pas mal aussi.
Je cours, mais bon, je me suis blessée, alors j'ai dû arrêter de courir, mais mes pieds, c'est très important.
Parfois, on fait du skate sous les étoiles, mais il arrive que l'on ait de mauvaises nouvelles des étoiles. Alors Dionysos missionne un certain Serge pour aller jouer les dépanneurs, le tout chanté sur 4 roulettes par un skater en plastique motorisé.
Skateboarding, sous morphine, à la tombée de la nuit. Charlie Chaplin vole un vélib pour m'escorter à Belleville. Gainsbourg est de retour pour réparer les étoiles explosées sous mon crâne de nouveau-né hanté. De se faire sauver la vie à la tombée de la nuit. Oh mes héros, qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de la nuit. Oh capitaine, mon capitaine, le voyage n'est pas terminé. I'm your man, Walt Whitman, je suis libre comme des livres sauvés. Jean Slim répéto, c'est mon costume d'auto super héros. Un grand chapeau pour garder. À la tombée de nuit. Oh mes héros, qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de la nuit. Sous la neige et sous la pluie, à la tombée de la nuit. Devant Libé, un policier me regardait passer. Un oiseau s'est posé au bout de son fusil et je me suis envolé.
Dionysos sur RFI dans la bande passante. Gainsbourg chantait l'homme à tête de chou, la leur à une tête de cœur, l'homme qui a cru au Père Moël chantait à l'instant le skateboarding sous morphine. Dionysos, vous allez homologuer les skateagères ?
Pourquoi pas ? Ça serait marrant en fait. J'en ai fait des photos un petit peu. C'est des étagères. Comment tu dis déjà, Babette ? Ouais, l'équerre, ouais, tout simplement, c'est des équerres tout simples, mais en fait avec des skates dessus, et du coup ça fait des étagères, mais je peux aussi les prendre pour aller faire un tour. Et du coup, ça fait à la fois de la déco et en même temps, ça fait gagner de la place et en même temps, c'est marrant.
Musique fait voile, emporte au-delà de l'infini du bleu à toutes les mers, en préambule de votre ouvrage, où on retrouve également ces mots. Ô moi, ô la vie, réponse que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le puissant spectacle se poursuit et que tu peux y apporter ta rime, s'écriait Walt Whitman. Et dans votre chanson, Journal d'un vampire en pyjama, I'm your man, Walt Whitman, je suis libre comme tes livres, sauvé. Deux mots donc sur ce poète américain du 19e siècle dont vous avez trimballé un vieux livre tout corné.
Ben, en fait, c'est une découverte, Cercle des poètes disparus, ado, en pleine découverte voilà, du rock'n'roll et de plein d'autres choses. Et puis, c'est un rappel ensuite dans le film de Jim Jarmusch, Down by Law. C'est Benigni qui lit Walt Whitman. Et puis ensuite, c'est cette librairie fantastique qui s'appelle Shakespeare et compagnie en face de Notre-Dame. Une espèce de, voilà, d'endroit où on se sent bien avec des pianos, des machines à écrire, etc. Et la demoiselle qui tient cette librairie s'appelle Sylvia Whitman. Son père s'appelait George Whitman, c'était un personnage assez extraordinaire. Ils sont tous c'est des amoureux et des passionnés du livre et on est tellement bien avec eux quand on va là-bas. Et la légende dit que son grand-père se faisait un petit peu passer pour Walt Whitman de temps en temps. Et donc il y a des livres de Walt Whitman évidemment et il y a des portraits de Walt Whitman. Donc moi c'était aussi un moment entre les deux hospitalisations où ça me permettait de voyager, d'aller dans cette librairie où tout le monde parlait anglais et d'être entouré de livres et de gens qui parlent anglais, ça me faisait un bien fou. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à développer mon obsession pour Walt Whitman.
Vous avez écouté du Ennio Morricone, je crois, hein, pendant votre maladie,
ouais.
Sur votre vélo,
ouais, ouais,
d'appartement.
Ouais. De toute façon, toujours avant, après, pendant. Mais c'est vrai que ça a eu fait rire des infirmières de rentrer pour m'amener un plateau repas ou un truc comme ça et de me voir sur le vélo avec du
Ennio Morricone.
Ennio Morricone à fond.
Voici un cinéaste qui vole un Vélib dans Skateboarding sous morphine. Sur votre album, Damoclès est digne d'une bande musicale de film terrifiant. Ici, c'est Les Feux de la Rampe de Charlie Chaplin. Mmh. Parce que dans la maladie comme dans le succès, lorsqu'on se retrouve sous les feux de la rampe, on gagne et on perd des amis. Quel tri vous a permis de faire cette aplasie ?
Un tri ultra sélectif, émotionnellement écologique à un point que j'aurais jamais imaginé. On me l'avait dit pour le succès, quand on a commencé à passer des petits concerts à des concerts plus gros, etc. On m'a dit, oulala, vous allez voir, il y en a qui vont changer d'attitude et nous, on ne croyait pas trop à ça. Et finalement, il y a des gens qui sont restés pareils et extraordinaires tout le long et d'autres non. Et quand je suis tombé malade, il y avait effectivement des professeurs qui m'ont dit, attention, il y a des gens qui changent quand on tombe malade. Et je m'étais dit, non, c'est pas possible parce que nous, on a l'impression de ne pas changer finalement. Et il y a des gens qui n'ont pas changé, qui ont été extraordinaires, dont le groupe. Et il y en a qui ont changé.
Aujourd'hui, il rechante après avoir été un fantôme déguisé en lui-même.
Et un, deux, trois, quatre.
Je ne sais pas encore en quoi, je ne sais pas vraiment pourquoi, ni comment je vais me déguiser pour mes 40 ans.
T'as l'impression d'avoir 10 ans, la sensation d'avoir 80 ans, plus ou moins. Les émois des adolescents.
J'ai vécu si vite. Maintenant j'ai envie de me déguiser en moi. Comme c'est compliqué d'être seul.
À l'instant, c'était déguisé en moi Dionysos. Qui est Mathias Malzieu aujourd'hui ?
C'est le même en pire et en mieux. C'est-à-dire que tout ça est complètement exacerbé. Donc je profite au maximum de tout ce qui m'arrive avec le groupe, etc. Et en même temps, la carapace n'est pas complètement refaite. Il y a une hypersensibilité qui fait que je suis plus fragile aussi, même sur les émotions.
Qui est Babette ?
Qui est Babette ? elle évolue tous les jours, à chaque seconde. Alors je peux dire qu'elle... Si je te dis déjà ce qu'elle est maintenant, elle sera déjà plus ce qu'elle est juste après.
Mathias, ce sont les chansons les plus intimes que vous ayez écrites, mais en quoi ce disque est-il le plus Dionysos à ce jour ?
Pour moi déjà, parce que c'est un résumé incroyable de l'état d'esprit du groupe depuis 22 ans. C'est-à-dire que dès le début, que ce soit mes chansons rock'n'roll ou les chansons intimes, je les ai toujours données au groupe, pas fait de projet parallèle ou un truc comme ça. Et ça a été possible parce que le groupe a toujours répondu à ça, autant sur se rouler par terre et faire les cons sur scène, ou aussi être dans l'intime et dans le plus acoustique. Et aujourd'hui, ce disque est comme ça aussi parce que le groupe m'a permis de donner ça et la renvoyer.
Vous avez gagné un peu d'argent avec Dionysos.
On va voir, oui.
C'était pas donc un groupe sanguin, mais un groupe de copains. Je rappelle le titre de votre album, Vampire en pyjama. C'est trois célèbres vampires, lequel des trois serait le plus proche du vampire en pyjama? Elisabeth Báthory, dite la comtesse sanglante. Mercy Brown, présentée dans les légendes urbaines comme le dernier vampire d'Amérique. Ou Vlad l'Empaleur, dit Dracula.
Ce serait Vlad l'Empaleur, mais disons qu'à la place d'empaler, il préfère embrasser.
Ça vous va? Pas bête.
Moi, j'aurais dû aucun des trois, mais...
D'accord.
Mais s'il fallait en choisir un,
oui, il fallait en choisir
autant
un.
Le détourner un petit peu.
Oui. Merci infiniment, Babette et Mathias Malzieu.
Merci à vous, c'est une super jolie émission.
Ouais,
peut-être la plus jolie que j'ai l'impression qu'on ait fait pour l'instant.
C'est très touchant parce que du coup, c'est contextualisé avec beaucoup de délicatesse et ça nous fait très plaisir.
Ouais. Merci infiniment. Allez, tout le monde en pyjama, fin de cette rediffusion de la bande de Dionysos. Demain, faites la connaissance ou redécouvrez la jeune Isla. Vampirisez la bande via rfi.fr, rfimusique.com ou les réseaux sociaux. Dans moins d'une minute, le journal. Salut.